Les petits enfants peuvent monter pour la garderie. Vous l'avez pas dit, mais je pense que oui, déjà. On s'occupe de ça. Et on a lu le chapitre 42 déjà. Vous avez une saveur déjà de ce que ce chapitre renferme. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une délégation qui est allée auprès de Jérémie. Et qui a été plein de bonnes intentions. Jérémie, dis-nous ce que le Seigneur il veut, puis on va faire tout ce qu'il dit. Mais quand le Seigneur a révélé à Jérémie c'était quoi sa volonté, ah ben là, ça marchait pas avec ce qu'eux autres ils voulaient, fait qu'ils n'ont pas écouté. Et ils ont fait à leur tête. Je vais juste lire quelques versets pour donner un peu les grandes lignes de comment tout ça se passe. D'abord, chapitre 42, verset 6, ça dit... Donc ça, c'est la délégation, là, avec Jochanan, qui dit que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Mais regardez au verset 20. Si c'est Dieu qui parle, ben c'est Jérémie qui parle de la part de Dieu. Vous vous trompez vous-même, il parle à cette délégation, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en disant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Fais-nous connaître tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira, et nous le ferons. Je vous l'ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel, votre Dieu, ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire. Sachez maintenant que vous mourrez par l'épée, par la famine ou par la peste dans le lieu où vous allez pour y demeurer. Ils vous laissent réfugier en Égypte et c'était ça leur sort. Et on voit dans chapitre 43 qu'ils ont absolument fait comme il avait dit. Ils allèrent, ça c'est toujours la même délégation, ils allèrent au pays d'Égypte car ils n'obéirent pas à la voix de l'Éternel. Et ils arrivèrent à Tahpanès. On va prier. Seigneur, on te prie que tu puisses ouvrir nos yeux sur ta parole et qu'on puisse humblement, honnêtement, se considérer, Seigneur, pas notre voisin, pas la personne qu'on pourrait dire que ça peut bien aller pour cette personne-là, le message, mais chacun, Seigneur, seul devant toi. Qu'on soit face à ce que tu as à nous dire. Tu es un Dieu personnel, tu es un Dieu qui interpelle, tu es... Le Dieu vrai, ce n'est pas des mensonges, des manipulations avec toi, c'est la vérité telle qu'elle. Alors Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on ne soit pas sourds d'oreilles, que nous autres non plus on ne tombe pas dans ce piège de se tromper nous-mêmes, mais on vient avec toi, devant toi Seigneur, humblement, demandant que tu fasses ton œuvre, même s'il y a un prix à payer, même si ce n'est pas agréable à notre chair Seigneur, afin que tu formes Christ dans tes enfants, et Seigneur qu'aussi ceux qui ne te connaissent pas encore, puissent voir leurs besoins de Christ et qu'ils puissent se tourner vers lui pour le salut de leur âme. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Remarquez que dans le texte qu'on vient de lire, et bon, je dirais aussi tout le chapitre là, qu'on a lu avant, la preuve, l'évidence de la grande tromperie dans notre texte, je veux dire, c'est pas très caché. Là. Ils sont venus avec des intentions, puis finalement, ça... On voit tout de suite que, puis avec les versets qu'on a lus, comment ils se trompaient eux-mêmes, comme Dieu le dit d'ailleurs au verset 20. Mais remarquez aussi que la peur joue un rôle là-dedans. Regardez au verset 11. Ici, ça dit au verset 11, « Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. » C'est par peur qu'il agissait. « Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. » Le problème fondamental de cette délégation ici de Jochanan qui ont été voir le prophète puis qui finalement n'ont pas écouté ce qu'il avait à dire, c'est qu'ils ont manqué Dieu, la communion, le rendez-vous avec Dieu au sein même de leur souffrance, des problèmes qu'ils traversaient. Et le message va nous expliquer comment on peut arriver à ce point-là, de manquer Dieu lorsqu'il nous donne un rendez-vous. Vous savez, les rendez-vous de Dieu, c'est pas... nécessairement ce que nous, on s'imagine. On s'imagine qu'un rendez-vous de Dieu, on est assis sur notre chaise, on a un petit café, on lit notre Bible, on a un bon temps avec le Seigneur. Puis on dit, waouh, ça, c'est la communion avec le Seigneur. Puis je veux dire, c'est merveilleux quand on a ça, de la communion comme ça avec le Seigneur. Mais aussi, le Seigneur a des rendez-vous à des endroits beaucoup moins agréables, de manière beaucoup moins, je dirais, préparée. Mais c'est quand même des rendez-vous de Dieu. Et Dieu, des fois, envoie des situations adverses pour nous y rencontrer. Mais comment est-ce qu'on réagit? C'est ça qu'on va considérer dans le message. Et j'aimerais clarifier en partant que, vous savez, le titre de notre série cette année, c'est le thème de l'année, Christ dans les Écritures. On voit Christ dans les Écritures ici, dans le sens où est-ce que, puis aussi comment, aussi avec le thème du mois, Christ, notre justice, je vais vous l'expliquer dans un instant, mais Christ est venu briser, vous savez, un des titres du Messie, c'est celui qui brise, celui qui fait une brèche. En anglais, là, ça fait encore plus épeurant, « The Breaker ». Non, c'est vrai, vous irez voir, c'est dans Michée, chapitre 2, verset 13, c'est un titre messianique, celui qui brise, en français, ça dit qu'il fait une brèche. Après, je peux vous lire, si vous voulez, celui qui fera la brèche, montera devant eux, il fera la brèche, il montera, ils feront la brèche, ils franchiront la porte, et ils en sortiront, le roi marchera devant eux, et l'Éternel sera à leur tête. Mais c'est celui qui brise comme ça, qui vient briser la tromperie. Ce cœur trompeur duquel on peut tellement facilement tomber dans le piège, il est venu ici briser ça. Et c'est ce qui est dénoncé ici, vous vous trompez vous-même. Et le pire, c'est qu'on peut se faire accroire que nous plaisons à Dieu, que nous sommes dans une situation où est-ce que notre vie lui plaît, mais sans que nous marchions par la foi. C'était ça ici. « Ah, c'est là, on veut faire ce que tu veux, puis tout ça. » Mais Dieu exigeait la confiance, la foi. Il devait faire confiance au plan de Dieu, puis ça ne faisait pas du sens humainement de rester alors qu'il était menacé par l'armée de Babylone, cette armée effroyable. Mais c'est ce que Dieu leur demandait. Il y avait les bonnes intentions, mais c'était les bonnes intentions de la chair. Et la chair, Jésus a dit, elle ne sert à rien. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. On voit que le problème, c'est pas qu'il y avait pas des bonnes intentions, ils sont allés, on le voit au verset 6, que tu dises du bien ou du mal, on va écouter la parole de l'Éternel. Ils venaient avec toutes sortes de bonnes intentions, mais ça reposait, le problème c'est que ça reposait sur la confiance en eux-mêmes. Ah, dis-le là, on a confiance que tu vois, n'importe quoi que tu nous dis là, on va le faire. Il y avait confiance en eux-mêmes, en leur capacité, mais pas en Dieu. Parce que quand Dieu a montré ce qu'il voulait, ils n'ont pas fait de confiance. Et toujours en guise d'introduction, je vais amener un peu la lumière du Nouveau Testament sur ce texte de l'Ancien Testament. Savez-vous, Jésus est venu accomplir une mission. On comprend que Jésus est venu pour sauver son peuple de ses péchés et que ce salut, cette délivrance s'expérimente au moment où est-ce qu'on est sauvé, mais aussi quand on est sauvé, quand on est un enfant de Dieu, cette délivrance continue. On n'est pas juste sauvé, boum, puis après ça, on reste la vie chrétienne, on s'arrange par nous-mêmes. Non, on est sauvé constamment de la puissance du péché qui nous enveloppe si facilement. Et ça, c'est par notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Écoutez Romains 8 à ce sujet-là, versets 3 et 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair, rappelez, on vient de parler de la chair, les bonnes intentions de la chair la rendait sans force. Et Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Autrement dit, ce que notre texte nous révèle, c'est que ce qui manquait à ces gens-là, c'était pas des bonnes intentions, de la bonne volonté, mais c'était celui qui produit en nous le vouloir et le faire par sa grâce. Et ils n'ont pas accédé à ce Dieu tout-puissant parce qu'ils n'ont pas fait confiance. On voit, il y avait une promesse. On a parlé de la peur au verset 11, mais aussi au verset 12. Écoutez ce que Dieu dit, en parlant ici du roi de Babylone, « Je lui ai inspiré de la compassion pour vous. Il aura pitié de vous et vous laissera demeurer dans le pays. » Dieu avait promis, « Si vous restez, je vais agir en sorte que vous n'avez rien à craindre. Je vais rendre ce roi redoutable, je vais le rendre favorable à vous, je vais inspirer de la compassion. Il va vous laisser vivre paisiblement dans le pays. » Ils devaient faire confiance à Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à ce qu'ils ont entendu, ils se sont enlisés. Et on sait aussi pourquoi, parce que ça nous dit, Jean chapitre 43, verset 2, que ces gens-là étaient des gens orgueilleux. Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréach, et tous les hommes orgueilleux, dirent à Jérémie. La Bible nous donne le diagnostic ici, c'est des gens qui étaient orgueilleux et n'ont pas ajouté foi. Donc l'incrédulité et l'orgueil sont à la racine du problème ici. Et ça m'amène à ce point important, on voit Christ dans les Écritures, et le thème du mois qu'on termine aujourd'hui, c'est notre dernier message sur Christ, notre justice. Et voici un lien. C'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, elle est parfaite, et pour nous, marcher dans la justice de Dieu, c'est rencontrer nos obligations. La Bible dit, tu dois faire ça, quand on marche dans la justice, on fait ce que Dieu nous demande. On rencontre nos obligations. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous, on n'a pas rencontré les obligations de Dieu. La loi parfaite de Dieu, personne n'est capable de la garder, mais lui l'a fait pour nous, et... ce que j'aimerais ici souligner, c'est que si on recherche la justice en dehors de Jésus-Christ, on ne va jamais la trouver. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais capable par nous-mêmes de nous sauver. Si vous êtes ici et vous n'êtes pas sauvé, vous ne pourrez pas vous sauver vous-même en essayant de faire les 10 commandements, d'être une bonne personne, un bon enfant dans une famille chrétienne. Ça ne peut pas arriver. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus qui, lui, a rempli les exigences de la loi de Dieu. Lui, juste, est mort pour nous, injuste. Et savez-vous, c'est vrai pour rentrer dans la famille de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu, pour le salut, mais c'est aussi vrai pour la sanctification. Si on veut grandir dans les voies de Dieu, il faut que, par la foi, on marche avec le Seigneur et c'est lui qui va accomplir sa justice dans notre vie comme ça, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ces gens-là nous montrent comment on peut arriver avec plein de bonnes intentions devant le Seigneur, mais la chair ne sert à rien. C'est une belle image de ça, et comment c'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu, car c'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et donc, leur entreprise était vouée à l'échec parce qu'elle n'était pas basée sur l'humilité et la foi. D'où le titre du message, Christ, notre justice contre la tromperie. Que le Saint-Esprit puisse nous convaincre que Jésus seul est notre justice. Oui, pour le salut, mais aussi comme enfant de Dieu. On peut seulement plaire à Dieu par la justice de Christ. Savez-vous ça? Que même en tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, la seule façon de plaire à Dieu, c'est pas en étant un bon chrétien qui fait toutes les bonnes choses selon la liste de telle église. Non, c'est toujours et seulement par Jésus-Christ. Du salut jusqu'à la sanctification, jusqu'à la glorification, c'est par Christ, pour Christ, et que par lui et pour sa gloire. Parce que on est sauvé par la foi et on marche par la foi. Ça a été cité tantôt. Si on vit dans cette chair, on vit dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même pour nous. Il dirait que c'est bien d'actualité. Ça fait plusieurs fois que je le rappelle, mais je crois qu'il y a un danger présent en ce moment, parce qu'on est dans un temps plus de facilité. On peut laisser la fenêtre ouverte. Avant, on la fermait, pour pas que personne nous voit qu'on est tous ici sans masque, assis dans une église. Mais on peut se relâcher, il y a un danger qui est relié à ça. On peut tomber dans la tromperie de la fausse sécurité. Ah, tout va bien. Puis là, on s'appuie, tiens, on retombe sur le mode... comment j'avais dit tantôt? Cruise control. Ouais, mais pilote automatique, c'est ça. En fait, le cruise control, c'est le régulateur de vitesse. Mais on peut tomber sur le pilote automatique, sur le cruise control, une fausse sécurité. D'où l'importance de reconnaître Christ comme notre justice pour ne pas tomber dans la tromperie. Et notre texte illustre ça de façon bien vivide avec ici ce petit groupe-là qui était tenté de se retirer en Égypte au lieu de rester en Juda. On peut faire le parallèle avec Jérémie aussi, ça dit « Ce peuple a commis un double péché contre moi. Ils m'ont abandonné, moi qui est la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » C'est possible de s'en remettre à nos ressources, à notre sécurité, de se retirer dans ce que notre chair peut essayer de nous procurer, versus se confier en l'Éternel, comme ça dit dans le psaume 18. « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Ça, c'est le langage de quelqu'un qui se confie en l'Éternel. C'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, avec quatre étapes qui, si on n'est pas vigilant, nous font manquer, Christ, notre justice contre la tromperie. Quatre étapes. La première étape, on voit ça dans les versets 5 et 6, le motif qui nous fait manquer, Christ, notre justice. Versets 5 et 6, il dit à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous faire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. À première vue ici, tout semble beau, n'est-ce pas? Ça semble bien noble comme approche. Hey, ils vont voir le prophète, on veut faire ce que l'Éternel va nous dire. Mais la suite des choses révèle que c'était pas si beau que ça. On l'a vu, hein? Et pour moi, ça l'illustre ce qui est exprimé dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22. « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. » Ça avait l'air tout beau en partant. Le motif du cœur, on ne pouvait pas le voir, mais il s'est manifesté plus tard. C'est vrai qu'on ne peut pas reconnaître les motifs de quelqu'un, mais ça finit par se révéler. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, et notre conduite finit par se révéler, par révéler ce qui est la réalité dans nos cœurs. Donc, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours manifeste au début, qui peut avoir des mauvais motifs, mais on finit toujours par le voir, parce que Dieu révèle la réalité des choses. Et dans le fond, ici, ce qu'on voit, son passé, puis on peut voir le pattern pour nous, passer de l'idéal élevé, de la parole de Dieu, de marcher dans les voies de Dieu, dans sa justice, versus tomber au bas idéaux humains, ce que nous, on est capable de faire par nous-mêmes. En passant à la vie chrétienne, ce n'est pas une vie normale, c'est une vie surnaturelle. Si on se contente d'une vie chrétienne qui s'explique tout humainement, on ne se contente pas de la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, elle est surnaturelle. C'est le fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu fait, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. Je vous illustre ça avec une question qui m'a été posée dernièrement. Récemment. Quelqu'un m'a demandé: qu'est-ce que tu penses de certains pasteurs qui ont ouvertement fait l'apologie, même la promotion du vaccin? Et voici ce que j'ai répondu. Je ne peux pas juger leurs motifs, mais je peux trancher sur un point qui est évident. Vaccin ou pas vaccin, là n'est pas la question. Mais plutôt la confiance en Dieu ou pas. Ou pour le dire autrement, est-ce que je me confie dans ce que je fais pour trouver ma sécurité, mon acceptation et ma valorisation? Pensez-y, souvent, c'est ça qui pouvait être les motifs derrière ça. Quand on arrête et qu'on regarde, où est-ce que je cherche à être comblé? Parce que pensez-y, rentrer dans ce moule-là, ça m'offrait une sécurité, j'ai pas de problème, j'aurai pas de visite. Je vais être accepté, au moins par un certain groupe de gens, puis je vais être valorisé. Savez-vous que ces choses-là, c'est des choses fondamentales qu'on avait dans le jardin, qu'on a perdu à la chute et qu'on retrouve en Jésus seul? C'est ça la tromperie là-dedans. C'est pas la question vaccin, c'est où tu cherches ta sécurité, ta valeur et ton acceptation. C'est juste une façon qui démontrait où est-ce qu'on recherche les choses. À la base, je crois que ça révèle un problème d'incrédulité par rapport à Dieu, à sa parole, à ses promesses, mais aussi un problème d'orgueil, de résistance à la volonté de Dieu pour insister sur la nôtre. Et j'ai pris cet exemple-là, mais je ne tombe pas la pierre à toutes les fois qu'on recherche à trouver notre sécurité, puis on va parler de ça après-midi, notre sécurité, notre acceptation ou d'avoir une valeur à toutes les fois qu'on cherche ça dans les personnes, dans les choses qu'on fait, dans nos occupations, on tombe dans le même piège, on se trompe nous-mêmes en pensant que c'est beau, puis notre chair est bien contente là-dedans, mais quand on le cherche ailleurs qu'en Jésus, on va tomber flat sur notre face. Pourquoi? Parce que ça ne va jamais délivrer la marchandise que ça promet. Le plan rédempteur est comme ça. On l'a perdu en Éden, on ne le retrouve qu'en Jésus seul. On prêche qu'on est sauvé par la foi seul, en Jésus seul. Bien, on est sanctifié par la foi seul, en Jésus seul. Grande tromperie du monde chrétien. Et je crois que l'exemple que j'ai donné, c'est juste qu'une chose, une des façons qui révèle ce dont on parle ce matin et qu'on va parler même après-midi. Donc, c'est ça le motif qui nous fait manquer Christ, notre justice. Même si je mets des belles paroles pour embellir, si j'ai des belles actions qui donnent une parure, une apparence de piété, de justice, je renie ce qui en fait la force. Et je vais tomber. Et là, ça va m'amener inévitablement à la deuxième étape qui me fait manquer Christ, ma justice, et qui est la continuation concrète d'un mauvais motif. C'est la méthode qui me fait manquer Christ, ma justice. Non seulement le motif qui me fait manquer Christ, ma justice, mais la méthode. Et on a vu, je relis les versets 11 et 12, puis on va le mettre en contraste avec un autre verset. « Ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Je lui ai inspiré de la compassion pour vous et il aura pitié de vous. » Et il vous laissera demeurer dans votre pays. C'est des belles paroles de l'Éternel. Mais regardez ce que ça dit au verset 16. Encore l'Éternel qui dit, « L'épée que vous redoutez vous atteindra là au pays d'Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vous là en Égypte et vous y mourrez. » Voyez-vous le contraste? Le contraste entre se confier en l'Éternel versus la conséquence de ne pas se confier en lui. Parce que si je tombe dans le piège du mauvais motif, par incrédulité et par orgueil, ben, je vais me résoudre à la manipulation humaine, à la manigance, au lieu de m'en remettre à Dieu, à sa volonté, à sa sagesse. Une autre illustration, tous ceux que j'ai vus utiliser la méthode qui nous fait manquer Christ, notre justice, sans exception, ces gens-là, ils utilisaient des excuses pour justifier leur mauvais motif, d'abord, mais aussi, ils avaient déjà leur propre plan. En tant que pasteur, là, ça m'arrive des gens qui viennent me voir, là, un peu comme cette gang-là. Pasteur, je viens te voir parce que j'aimerais avoir des conseils pour telle et telle situation. Leur idée est déjà faite, ils cherchent quelqu'un pour justifier, pour valider ce qu'eux autres ont déjà toutes décidé qu'elles allaient faire. Puis, c'est la nature humaine qui est de même, mais c'est juste que ça donne que j'ai souvent été au premier plan de le voir. On est des experts en tant qu'humains dans le genre de simagrée puis de manipulation où est-ce qu'on cherche à faire notre volonté. Si on cherche à faire notre volonté à tout prix, on finit par y arriver. Mais on n'arrivera pas dans la volonté de Dieu. Alors on peut se poser la question, quel motif révèle mes méthodes? Que genre je suis en train de faire puis tout ça? Qu'est-ce que ça révèle sur mes motifs? Puis pour répondre honnêtement, là, puis véritablement, je vous donne juste quelques versets, puis ensuite je vais poursuivre la réflexion avec un autre point. Mais écoutez juste Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. » C'est-à-dire, c'est plus que les pensées que moi que j'ai, qui ont bien du bon sens, ce ne sont pas exactement celles de Dieu. « Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Jésus, comment il a prié dans le jardin? « Ah, Seigneur, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Si la façon que Dieu vous dirige marche à 100% avec votre volonté, puis vous êtes parfaitement capable de l'accomplir, il y a quelque chose de louche avec ça. Non, mais c'est vrai, ça fait tellement du sens, puis c'est tellement faisable, puis tout marche. Il y a peut-être quelque chose que justement, c'est pas les pensées de Dieu, c'est pas ses voix. Parce que quand c'est de Dieu, ça nous amène devant l'impossible. Parce que c'est ça la foi, puis c'est pas logique, il y a quelque chose qui marche pas, puis ça veut pas dire que à toutes les fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, que ça va être nécessairement contre ce qu'on aurait voulu faire, parce que ça se peut qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu aligne nos pensées avec les siennes, puis tout ça, mais je veux dire, si tout le temps c'est de même, puis spécialement avec des projets qu'on peut avoir, si c'est tout donc parfait comme on l'avait voulu, on doit se poser la question, est-ce que vraiment c'est de Dieu? Et la troisième étape qui nous fait manquer Christ, notre justice, elle est bien révélatrice parce que ça nous montre où est notre confiance et comment c'est difficile de rester dans la tromperie de soi-même si on veut demeurer là-dedans. Non seulement il y a le motif, non seulement il y a la méthode qui nous fait manquer Christ, notre justice, mais il y a là, j'ai appelé ça la machination. La machination qui nous fait manquer Christ, notre justice. C'est-à-dire de forcer les choses, s'arranger pour que les choses arrivent au lieu de dépendre de Dieu. La machination, on pourrait dire, au lieu de l'intercession. Ou encore les moyens lâches de s'en sortir au lieu du courage de la foi. Et je pose la question, qu'est-ce qui demandait le plus de courage dans la situation ici? Fuir en Égypte vers la sécurité ou se confier dans l'Éternel qui disait « Restez avec ce roi méchant, puis moi je vais y inspirer de la compassion pour vous. » Poser la question, c'est d'y répondre, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire que cette machination, c'était l'alternative raisonnable à la foi. La foi disait « Reste là. » Mais aller en Égypte, c'était raisonnable quand même. Je veux dire, hey, on peut trouver de la faveur. Tu sais, c'était pas si fou quand même. On pouvait trouver une façon de fignoler ça que Abraham a fait ça, n'est-ce pas? Tu sais, on peut trouver. Quand on sait Abraham, il l'a fait. Je dis, la fin de l'histoire, ça finit pas bien, mais. C'est une alternative raisonnable à la foi. Oh, mes amis, à toutes les fois qu'on est appelé à marcher par la foi, notre chair, la pensée du monde, Satan lui-même vont avoir une belle alternative, une belle option B, un beau plan B, au lieu de se confier en l'Éternel. Vous savez, je parlais de situation, on peut laisser la fenêtre ouverte, il n'y a plus de menaces et tout ça, pour l'instant. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On sait qui tient l'avenir, et ben, c'est merveilleux, une chance. Mais je sais que si on recherche la sécurité à n'importe quel autre endroit qu'en Dieu, et qu'on oublie l'idée d'avoir le courage de la foi, le courage de se confier en l'Éternel, parce que, vous savez, ça se peut qu'on soit obligé d'être reconfiné, qu'il y ait d'autres mesures, puis toutes sortes de choses de même, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais mes amis, avec tout ce que le Seigneur a fait depuis les deux dernières années, comment on pourrait aller là? Surtout qu'on manquerait le rendez-vous divin. C'est-à-dire, si Dieu nous dit, faites-moi confiance, restez là, voyez la délivrance de l'Éternel, amen. On serait bien fou de manquer ça, mais il va y avoir une alternative raisonnable à la foi. Puis je ne sais pas de vous compter des peurs, j'essaie juste d'être réaliste, regarde, là ça va bien, mais déjà, tu sais, tout le monde dit, ah, mais on ne sait pas quelle sorte d'automne qu'on va avoir. Bon, on va avoir l'automne que le Seigneur va nous donner, qu'on va se confier en lui. Non, mais c'est vrai, on n'a pas le choix, je veux dire. On va voir. Ça peut être épeurant de penser de même, mais ça peut surtout être un réconfort si je crains Dieu plus que tout le reste. Et si j'ai plus peur de mes machinations que des conséquences de ne pas me confier en Dieu, vous savez quoi? On devrait plus avoir peur de ce qu'on essaye de faire par nos propres plans où ça peut nous mener que, ouais, si je ne me confie pas en Dieu, ça va être vraiment terrible. Vous savez quoi? C'est ça l'épreuve de notre foi. C'est dire, OK, coûte que coûte, contre vents et marées, contre raisonnement et tout ça, je vais quand même me confier en l'Éternel, mon Dieu. C'est ça la foi. C'est comme ça, c'est le choix que la foi nous amène à faire. Et la quatrième et dernière étape, et on est dans une pente descendante parce qu'on voit ici un exemple mauvais, mais on en tire des bons principes. Si on s'enfonce dans le mauvais motif, la mauvaise méthode et la machination, ça va nous amener finalement à la dégénération spirituelle qui nous fait manquer Christ, notre justice. Et on voit ça dans chapitre 43, versets 2 et 3. mais surtout au verset 3, où est-ce que ça dit, ici, cette délégation qui dit, « Mais c'est Baruch, fils de Nerija, qui t'excite contre nous, afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens, pour qu'il nous fasse mourir et nous amène captifs à Babylone. » Rendu à ce point-là, la rébellion ne peut plus être embellie. Là, là, les belles histoires de dire « Ah, on va vers l'Éternel, dis-nous... » le masque était tombé. Là, je veux dire, c'était clair qu'il ne voulait pas écouter Dieu. Mais au lieu de s'humilier, puis dire « Ouais, c'est vrai, on a besoin de se repentir », ben, ils ont jeté le blâme. « Ah, c'est Baruch, c'est de sa faute. » Et c'est une preuve, ça montre qu'ils étaient dans leur cœur endurci. Et comment il manquait, comme je l'ai dit, le rendez-vous de Dieu avec ces circonstances qu'il amenait pour eux autres. Il n'avait pas l'intention de rechercher Dieu, de faire sa volonté, de marcher dans sa justice. C'est quoi ton intention ce matin? Vous savez, il y a des enfants ici, il y a des gens qui ont des conjoints, conjointes, il y a des gens qui sont visiteurs. On peut tromper les hommes, je parlais tantôt, arriver devant le pasteur puis compter des affaires. Puis vous pouvez même tromper, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. C'est quoi tes réelles intentions? Ça va finir par se révéler de toute façon. Et la raison ici pour laquelle il y a eu cette dégénération spirituelle, ben parce qu'il y avait un manque de foi, il y avait de l'orgueil, qui a engendré des mauvais désirs au lieu des désirs pour la volonté de Dieu, puis faire ce que lui demandait, c'était des désirs pour soi, pour ce que moi je veux, puis... Et ça aboutit finalement à la corruption de leur conscience même, au lieu de se repentir, puis dire « c'est vrai, on a péché », ils accusaient les autres, puis ils pointaient du doigt. Mes amis, quel triste endroit où arriver, spirituellement. Donc voici à quoi ça nous mène ce matin. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une bonne prière à prier devant Dieu ce matin par rapport à ton état spirituel, pas celui de ton mari, de ta femme, de ton ami, du voisin, puis ça. Toi. Et on a la parole de Dieu entre les mains, la parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments, les motifs et les pensées du cœur. Que Dieu puisse sonder nos cœurs, qu'on ne joue pas de game avec Dieu comme ici ils ont fait, mais qu'on soit vrai, et s'il y a à avoir repentance, qu'il y ait repentance. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a moissonné, a semé, il le moissonnera aussi. Et je termine avec chapitre 43, verset 2. Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréach. Et tous les hommes orgueilleux dirent à Jérémie, « Tu dis un mensonge. L'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, « N'allez pas en Égypte pour y demeurer. » Savez-vous ce que ça révèle, ce verset-là? Leur idée était déjà faite avant de consulter l'Éternel. Ils avaient fait tout un beau spectacle, mais quand que Dieu a dit ce que lui avait à dire, la réalité de leur cœur a été révélée. Et je me demande ce matin, face à Dieu, qu'est-ce que Dieu révèle sur ton cœur? On parle de tromperie. Et j'aimerais amener un point important. La force de la tromperie, c'est sa subtilité. Pensez-vous que Satan, qui est le père du mensonge, qui est meurtrier dès le commencement, arrive avec des grosses boîtes à cap, puis qui cogne de même en arrivant chez vous, « Bonjour, je suis le diable, je viens pour vous détruire, puis vous amener à la perdition. » Non, ce qui fait sa force, c'est la subtilité. Et on sait que, bon, c'est ça, les ouvriers de Satan se déguisent en anges de lumière, il y a toute la tromperie, puis tout ça. Il faut que Dieu révèle. Vous savez, j'ai un frère bien-aimé dans le Seigneur à qui j'ai parlé à quelques occasions. Il y a des gens dans leur marche avec le Seigneur, des gens qui peuvent avoir des problèmes, des fois plus sévères et tout ça. Puis il m'a dit, je pense que je l'ai déjà partagé, mais Une des premières fois que j'y parlais, il dit « Ah ouais, quand je me retrouve avec une situation épineuse de même, je prie Daniel 2:22. » En fait, je pense que ça a été même, ça a été un thème, c'est-tu en 2020? Oui, je pense que c'était 2020. « Est-ce que vous priez Daniel 2:22, vous, des fois? » Et tout le monde me regarde, ils sont comme « Savez-vous ce que ça dit, Daniel 2:22? » Hein? On va prier Daniel 2:22. Venez avec moi dans Daniel 2, chapitre 22. Et on va terminer en priant Daniel 2:22. C'est une bonne idée, vous pensez?
Amen.
Ah, il y en a un qui dit Amen. Là, tu sais quoi le verset? Attention, hein, ça peut être plus. Il y en a peut-être plus que ce que le client demande. Non, c'est une bonne affaire. Écoutez ce que ça dit. Daniel 2:22, il révèle ici, il, évidemment, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure auprès de lui. Priez Daniel 2:22, c'est « Seigneur, révèle ce qui est profond et caché. » Toi qui connais ce qui est dans les ténèbres, puis toi pour qui, auprès de qui la lumière demeure. Je me demande ce matin, qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé à toi? Et la force de la tromperie, ça va être de rester, de laisser cacher ce que Dieu veut révéler. Et la puissance de Dieu, c'est de mettre la lumière, c'est de mettre fin à la tromperie par ce que lui révèle et juste lui peut le faire. Et peut-être que tu t'es fait accroire pendant toutes ces années que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'as pas la vie. Tu as peut-être la parure, tu as peut-être les paroles, tu as peut-être l'extérieur, mais tu n'as pas la réalité intérieure. Dieu sait. Peut-être que tu es vraiment un enfant de Dieu, mais que tu as réussi à faire à croire que tu pouvais vivre la vie chrétienne par la force de la chair, puis que Dieu était content pareil. C'est une grande tromperie de nos églises, avec des enfants de Dieu, là, puis vous savez quoi? Qui aiment Dieu. Pas celui là qui veut rien savoir, puis qui est à moitié. Ça peut être quelqu'un de très sincère. Prions que Dieu révèle, afin de mettre fin à la tromperie. Seigneur, merci que tu es le Dieu qui voit tout, qui sait tout. Ça peut être très épeurant si on veut se cacher. Mais si on veut marcher dans la lumière comme toi-même tu es dans la lumière, c'est réconfortant. Seigneur, on ne veut pas avoir peur de toi. On veut, Seigneur, avoir peur de nous-mêmes et de notre capacité à nous tromper et de nous auto-détruire. C'est ça qui est ta crainte. Toi, tu es le Dieu qui est bon, qui est vrai. Et quand tu révèles, ce n'est pas pour détruire. C'est pour restaurer. Donc, on vient à toi ce matin en te demandant de révéler dans nos cœurs ce qui peut empêcher à Christ, notre justice, de resplendir. Ce qui peut être la tromperie subtile qui empêche son œuvre de grâce. Oh Seigneur, fais ces choses pour toi, pour te glorifier. Et Seigneur, que ce soit pour le salut de quelqu'un ici qui n'est pas encore sauvé, ou que ce soit pour tes enfants bien-aimés qui peuvent être pris dans différents pièges et tromperies, subtilités de la chair. Seigneur, révèle-toi à nous. On te le demande au nom de Jésus, selon sa mission et pour sa gloire. Amen.